Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun. Produit par Ombre Portée 2.0.
Le résumé de la dernière fois. Qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois? Alors, il y a eu pas mal de scénarios qui se sont déroulés maintenant il y a longtemps, donc je vais essayer de revenir un peu en arrière. On va dire que tout a commencé, entre guillemets, il y a quelques scénarios quand vous êtes allé explorer les souterrains de l'archéologie de Tempelhof. Vous vous rappelez qu'à Berlin, autour de l'ancien aéroport de Tempelhof, qui, encore une fois, est très connu pour ceux qui se rappellent de Indiana Jones 3, parce que c'est celui qu'on voit dans Indiana Jones 3, et bien autour de cet aéroport, il y a donc une archéologie, ou plutôt une enclave corporatiste, qui est en gros le quartier de cette Zellergruppe à Berlin. C'est un gros morceau de Berlin, enfin un gros morceau du sud de Berlin, le SK... SK Tempelhof. Vous avez été fouillé dans un vieux bunker pour retrouver, je crois déjà à l'époque, un vieux processeur pour faire plaisir à Blitz. C'est là que vous êtes tombé sur une équipe de DKR qui faisait quelque chose de pas très, très clairement identifié au sein de la matrice filaire de Berlin, des DKR de Zellergruppe. Vous avez piqué les processeurs, vous en avez kidnappé une, parce que enfin, parmi les DKR, il y avait une femme, une elfe que vous avez kidnappée. Vous l'avez interrogée, vous avez manqué d'être surpris par des gangers qui comptaient parmi eux un technomancien dont vous avez à l'époque reconnu, la signature dans la résonance. Pas en dire beaucoup plus en espérant que ça vous viendra.
Oui, bon, je me rappelle qu'on l'avait reconnu, je me rappelle plus si c'était avant ou après, mais il y a un moment, ce gars, on l'a reconnu, ouais.
De mémoire, on l'avait reconnu parce qu'il nous espionnait après la décharge, je crois.
C'est ça.
Ah oui, c'est ça.
Avec le gang de motards.
C'est ça, exactement. Vous êtes rendu compte que le même mec qui espionnait les gangers près de la décharge était présent ici à son endroit-là, quoi. Là-dessus, vous êtes rentré chez vous au Caligari Kids. Je crois qu'il n'y a pas eu plus d'éléments par rapport à ce scénario-là sous Tempelhof. Mais par contre, Blitz vous a recontacté assez rapidement pour... Non, il ne vous a pas recontacté. Là-dessus, quand vous êtes rentré, en gros, le lendemain ou deux jours après, Blitz a disparu. Blitz a rencontré Hannibal. Hannibal, c'est le chef du camp... du camp entraîne néo-anarchique, là, l'espèce de petite formation militaire pour apprendre aux gens du quartier alternatif à faire la guérilla, qui est, comme je vous rappelle, de manière assez intéressante, placée à côté de la Kita et de l'école du quartier. Et donc, du coup, Blitz est allé voir Hannibal dans un bar, un bar japonais dans la bordure de votre quartier, une sorte de bar, enfin, plutôt japonais avec des filles et bien écolières qui dansent, enfin, un truc un peu sexy, on va dire. Là-dessus, il s'est fait attaquer et kidnapper. C'est Schrameux qui vous a prévenu. Schrameux, c'est une orque qui travaille de mémoire. J'espère que je ne mélange pas les PNJ, mais normalement, de mémoire, elle travaille pour le label de rock là, qui est au deuxième étage de chez vous, là, le Black Pirate. Schrameux vous a prévenu en vous disant, en vous vendant un peu des salades en fait. Elle vous a expliqué des trucs pas très clairs, comme quoi en fait, elle était là par accident, mais en fait, non. Enfin, c'était un peu diffus son histoire. Mais elle vous a quand même prévenu, et à la demande de ça, vous êtes allé voir un peu ce qui est arrivé à Blitz et ce qui est arrivé à Hannibal. Vous avez identifié les kidnappeurs de Blitz et d'Hannibal comme étant probablement des gens d'une corporation vu le niveau d'organisation. Vous avez remonté avec des caméras, en piratant plusieurs caméras de la ville et en remontant le chemin du camion, vous avez réussi à déterminer que quelque part dans Tempelhof était planqué, le camion est arrivé à un bâtiment quelque part en Tempelhof qui en fait est un bâtiment que vous avez rapidement identifié aussi comme étant une planque, je crois, de SK Prime ou d'un service d'élite de Zellergruppe. Et en gros, vous avez conclu que Zellergruppe a décidé de kidnapper Hannibal et Blitz, ou alors Hannibal, ou alors Blitz, mais bon, voilà, en tout cas, l'un des deux, voilà, il est pris comme cible. Et vous avez opté sagement de dire, ok, on n'est pas au niveau de se faire une forteresse de James Bond renée par SK Prime, donc on ne va pas essayer de faire ça. Par contre, ce que vous avez fait en parallèle, c'est que la question de savoir comment les mecs savaient qu'il y aurait Hannibal et Blitz à ce moment-là, dans le café, donc hors du quartier, un peu plus vulnérable qu'en temps normal, avec une opportunité de les choper. Et bien, ça, vous l'avez résolu en faisant une petite enquête et vous vous êtes rendu compte que la gentille serveuse elfe et rouquine du café Max Stirner, qui est en bas de votre maison, en fait, vous vivez, pour rappel, dans la Max Stirner House, donc la maison de Max Stirner. Et bien, dans ce café, en fait, il y a une petite serveuse gentille qui s'appelle Annie, et vous avez découvert que, en gros, il n'y avait que elle qui pouvait savoir l'information. Vous avez été la confronter et elle a vite cédé et vite fondu en larmes en vous expliquant qu'en fait, elle informait sa Aider Group sur ce que faisait le quartier. Qui a donné des informations qu'elle trouvait généralement, elle, assez innocente, quoi, parce que c'est une serveuse, quoi, c'est pas grand chose, quoi. Mais elle a donné des informations à son handler côté Zellergruppe. Je sais pas s'il y a un terme pour handler, agent, manager, le mec de Zellergruppe qui la gère.
Son agent de liaison.
Voilà, son agent de liaison, merci. Voilà, et elle vous a expliqué qu'en fait, elle n'avait pas le choix parce que, bah, en fait, grosso modo, un jour, elle a voulu aller récupérer son enfant, sa fille à la crèche, et on lui a dit, ah bah non, votre enfant, on le garde tant que vous bossez pour nous, et donc si vous voulez pouvoir la voir, bah, il va falloir que vous travaillez pour ça, et d'accord, grosso modo. Et donc, vous vous étiez arrêté la dernière fois en disant, ok, bah, Blitz et Hannibal, on peut rien y faire, bon, par contre, la gamine, peut-être qu'on peut la récupérer, et du coup, faire que Annie arrête de bosser pour l'ennemi, quoi. Ou du moins, elle ait le choix d'arrêter de bosser pour l'ennemi. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Est-ce que on va espérer que ça vous est un peu revenu quand j'ai fait le résumé? Est-ce qu'il y a des choses autres que j'ai pas dites que vous trouvez importantes ou des questions? Enfin voilà, là j'ouvre le floor, comme on dit.
Alors moi je me rappelle que notre rigueur préférée avait un contact chez SK. Il y avait un peu discuté, c'est comme ça qu'on avait d'ailleurs su que c'était SK Prime derrière cette société qui avait l'air fait innocente.
Oui, c'est une ancienne amante, Eva Schmitz.
Voilà, donc je sais pas à quel point elle t'est redevable ou tu peux lui devenir redevable pour que l'on puisse... Parce que si on va chercher la gamine, ça veut dire quand même rentrer dans Temple of. Donc il faut déjà avoir les accréditations pour rentrer. Il va falloir réussir à sortir discrètement de tout ça parce que on n'aura pas les moyens de sortir en pétaradant, en explosant le mur et tout ça quoi.
Juste une remarque, tu évoques un point important que tu as peut-être oublié. Ta contact n'a pas du tout apprécié quand t'as commencé à me donner des informations là-dessus, quoi. Elle t'a dit, ouais, genre, tu vas me foutre dans la merde, tu vas me faire griller, enfin... Et en gros, elle t'a donné des infos, et elle a dit, t'as intérêt à m'oublier pendant quelques temps, parce que là, j'ai la planque de ce qu'on appelle la planque dans le scénario de Cider Group, c'est pas un petit secret, quoi, c'est un truc vraiment, voilà, important, et d'un seul coup, vous l'avez, en lui posant des questions là-dessus, vous l'avez mis en fait sur le radar par accident de SK Prime.
Oui, je me rappelais effectivement que là, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait faire pour nous sur ce coup-là et qu'il n'y avait pas beaucoup plus d'aide à espérer de sa part. Qu'est-ce qu'on sait sur la crèche et sur la fille de... Comment elle s'appelle ?
Ouais, de Annie.
De Annie, merci.
Sa fille s'appelle Sia, Annie, hein, S-I-S-I-A. Vous l'avez croisée, ça fait quand même 2 mois que vous êtes... bien 2 mois que vous êtes, même 3 ans maintenant, je pense, que vous êtes arrivé dans le quartier. Vous avez croisé Sia 1 ou 2 fois, enfin hein, voilà, une petite gamine mignonne, qui doit pas être très vieille. Hein, je crois que je vais vérifier quel âge elle a dans le scénario, mais je crois qu'elle a genre 4-5 ans, enfin, vraiment un enfant, quoi. Et alors donc, ce que peut vous dire Annie, donc ce qu'elle vous raconte un peu en sanglots, mais je vais pas vous faire la femme qui pleure, parce que ça serait pénible pour tout le monde si je commençais à vous expliquer des choses tout en marmonnant dans la barbe, mais bon. Ce qu'elle vous explique en sanglotant, c'est qu'effectivement, c'est en plein dans le cœur de la zone corporative de Temple of. Alors, je vous montrerai plus tard aussi sur la carte de Berlin en général. Je vais déjà vous montrer la zone. Donc la zone que je vous montre là, je vous ai fait une capture sur Google Maps. Là, c'est la zone, c'est les parages immédiats de la crèche. Donc, j'ai fait un gros trait rouge avec un petit logo pour indiquer où est la crèche. Donc, la crèche, elle est vraiment à l'angle de ce truc-là. Je vais vous montrer aussi une image, je vais la faire afficher. Je vais vous montrer une image du bâtiment un peu zoomé. Hein, donc, c'est au Koltzwitzstrasse 21 qui est marqué sur la photo que je vais faire apparaître. Voilà. Juste pour vous donner un peu l'idée de l'environnement, donc la carte, j'ai fait exprès de faire une carte un peu grande pour que vous ayez une vue générale, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un grand axe qui fait nord-sud vers à l'est de la zone. Ça, c'est vraiment une grosse autobahn hein, qui passe au-dessus de la rivière, etc. Il y a un bout de l'Acheprey, donc la rivière qui est pas loin. En fait, il y a un pont qui est à 100 mètres de ni plus ni moins l'entrée de la crèche. Mais par contre, ben, tout le bloc, y compris la rivière et au-delà du pont, appartient à l'enclave quoi, de Cider Group. Pour entrer dedans, faut montrer patte blanche, faut montrer au moins un signe corporatiste. Alors un signe corporatiste, genre si vous êtes VRP d'une autre corporation, que vous venez pour une réunion, aucun problème. Par contre, si vous venez de Renraku, vous n'allez pas faire vos courses. Enfin, vous pouvez faire vos courses dans la partie commerciale de l'enclave, mais vous ne pouvez pas rentrer ici dans l'enclave avec ce signe-là. Alors quand vous êtes Sines, n'en parlons pas. Et si vous avez ce qu'on appelle un false com, donc en fait un comlink de quartier alternatif avec un signe de quartier alternatif, grosso modo, ça ne vaut pas beaucoup plus qu'un Sines. Donc on voit ça pas rentrer non plus. Donc du coup, voilà. Et le problème, c'est que c'est effectivement assez au cœur du quartier. Je vais vous mettre sur la... Pour vous donner juste une idée générale, je vous mets sur la carte de Berlin 2080 et je vais mettre une petite puce avec la tête de Annie là-haut et sa fille. Alors évidemment, ça n'a aucun intérêt, mais Annie, j'ai mis un E comme je crois qu'on met en français. Il n'y a pas de E en allemand à la fin, donc c'est Annie, A-A-N-E. Voilà, s'il y a des puristes de l'orthographe des prénoms, vous saurez pourquoi. Hop, alors j'essaie de manœuvrer la carte sans souris, c'est pas facile. Hop, hop. Hop. Alors, vous avez en jaune là, la carte de SK Temple of. On voit bien l'espèce de gros morceau que s'est coupé l'ami Lofir dans la ville. Et je vais, alors, elle est un peu trop grande la photo d'Annie, donc je vais la réduire. Voilà où est à peu près la crèche de sa fille. En fait, vous voyez qu'il y a une sorte de petite carré de flotte près de là où j'ai mis la photo. Je vais essayer de faire un petit ping avec. Bon, en fait, ce carré de flotte sur l'autre carte que je vous ai montré, que je vais vous remettre à disposition, c'est l'espèce de port qui est près de la crèche. Donc, il y a un petit port qu'on appelle le port de Tempelhof, donc le Tempelhofer-Hafen, pour les Germanhafen. Et en fait, ça, c'est vraiment un petit port. Il y a quelques bateaux qui peuvent circuler sur le fleuve. Il y a un petit restaurant, un centre commercial. Enfin, ça, voilà, c'est une petite. En fait, c'était plus une marina qu'un port quelque part. Mais ça, c'est une sorte de marina à terme. Alors, et dernière info importante, hein, donc le foyer s'appelle le foyer pour enfants de Feuerschwing. Et en fait, il est animé par une petite mascotte en réalité augmentée qui s'appelle Fenya ou Fenja, dans Fenya Feuerschwing, qui est un petit dragon en mode dessin animé avec des ailes enflammées, qui est évidemment un hommage à la célèbre Feuerschwingen, enfin Feuerschwing qui a été abattu par, je crois, l'armée allemande, ou je ne sais plus qui l'a abattu exactement, mais elle a été abattue dans le jeu Dragonfall, hein, je vous laisse vous y référer. Je crois que ça a été abattu en 2040 ou en 2035 et qui s'est écrasé dans la Sox et qui officiellement est mort à ce moment-là. Je crois que Blofri est en bon thème avec Feuerschwing, d'où la raison de l'hommage. Et donc voilà, alors, pour cette histoire, en fait, le Fenja Feuerschwing, c'est juste une pâle copie en fait de la même programme qui tourne dans les parcs d'attractions de Neuessen, là au centre, le QG de Saedercoop. Et c'est voilà, et en fait, c'est un peu le Mickey Mouse, si vous voulez, de Saedercoop. Et ce que vous explique Annie, c'est que bah, apparemment, cette espèce de petite mascotte en réalité augmentée fait un peu à la fois moniteur d'étage, prof, pasteur, la chorale, enfin, c'est un peu. Elle occupe toutes les fonctions qu'on peut avoir dans une crèche. Et en fait, elle vous dit qu'elle n'a pas eu affaire à beaucoup d'autres personnes. Elle dit oui, quand je viens, parfois, il y a un peu de staff qui est là. Il peut y avoir la directrice de la crèche, il peut y avoir le service de logistique, etc. Mais généralement, bah, c'est Feuerschwingen qui apparaît en réalité augmentée, qui m'amène dans la salle de réunion où je suis autorisé par Saedercoop à voir ma fille. Alors, ma fille aime bien, comme tous les enfants, ils aiment bien Fenja Feuerschwingen, donc ils sont très copinés avec elle. Je vous rassure, tous les enfants de la crèche n'ont pas de Dada Jack, hein, donc ils ne voient pas dans la réalité augmentée. Par contre, il y a plein d'écrans et de projecteurs holographiques partout pour qu'elle puisse apparaître et interagir avec les enfants. Mais à part ça, dit-elle, pour conclure, avant de vous laisser la parole, elle dit, à part ça, il n'y a pas vraiment de force de sécurité, enfin, j'ai pas repéré de garde ou autre chose. Alors évidemment, moi, quand je viens, ben, j'ai un accès de parents à la crèche, donc je peux atteindre la crèche sans encombre. Mais je me doute bien que si je voulais essayer de reprendre ma fille, ça se passerait assez mal pour moi, sachant qu'en plus, il faudrait que je franchisse. J'ai plusieurs kilomètres qui me séparent de la limite de l'enclave. Et là-dessus, elle pousse un sanglot et je vous laisse reprendre la parole.
Concrètement, je suppose que la porte... Enfin, on est très proche de la frontière sud de l'enclave, mais je suppose que la porte, ça reste une porte blindée avec le mur comme ce qui court tout autour de Tempelhof.
Non, c'est une porte... Bon, c'est une porte vitrée qui s'ouvre quand on arrive, hein, qui en fait s'active avec la reconnaissance automatique d'un signe et puis d'un signe de parent attaché à la colle. Donc moi, quand j'arrive, personne ne m'ouvre la porte. Après, en soi, c'est une porte vitrée un peu résistante. Hein, mais
Le bâtiment, la rue qui part de là, on traverse le pont, on arrive à la frontière sud de Tempelhof.
Alors attention, ne vous laissez pas voir par ça, la frontière n'est pas le fleuve. Hein. Toute la carte que je vous montrais est dans le quartier de Tempelhof. La frontière en fait de Tempelhof, elle est par là-bas.
Oui, mais ça reste pas, c'est juste au sud du fleuve d'après la carte.
Il doit y avoir, alors je ferai face la mesure, mais entre le pont et la frontière sud par exemple de l'enclave, il doit y avoir 2-3 kilomètres, ouais, tout casé. Plutôt 2 que 3. Quoi.
Non, comment il peut pas y avoir 2-3 kilomètres?
Non, mais c'est pas ok. Alors je vais mesurer si vous voulez, mais en gros c'est pour dire que c'est pas juste à côté quoi. Il y a quand même une distance à franchir quoi.
Ça, je suis d'accord.
Je vais mesurer sur la carte pour vous dire exactement ce que j'ai fait le layout.
Mais tu es d'accord que de toute façon là la frontière de Tempelhof par la route, c'est un mur comme on avait vu lorsqu'il y avait eu les problèmes à Halloween.
Ouais, alors autour de Tempelhof, vous avez un signe enclave. Vous avez vraiment un mur à la mode, ben, comme la photo que j'ai aimée à l'époque. Hein, effectivement, c'est vraiment un mur d'enclave. Pour rentrer, il faut passer par l'une des portes. Le checkpoint Delta en était une, mais il y a d'autres portes pour lesquelles vous pouvez rentrer dans le quartier. Et donc voilà. Et en fait, j'ai mesuré, hein, pour information, j'ai mesuré, il y a entre le port, en gros, ou le pont, l'axe que je pense que Andreas a pris pour découper la carte, qui est donc la Ringstrasse et puis les Britzerstrasse, il y a 1,16 km. La carte de Berlin 2080, il faut pas oublier que Berlin est extrêmement étalée. Hein. Donc là, sur le fait qu'il y ait 1 km dans le petit espace entre la rivière et la bordure, c'est pas surprenant.
Ouais, ce qui me choque, c'est par rapport aux pistes de l'aéroport. Mais bon, c'est pas grave, 1 km. Restons là-dessus.
Ah ouais, mais les pistes sont pas à l'échelle du tout. Oh là là, oui d'accord, ok. Non, les pistes sont pas du tout à l'échelle. Elles sont beaucoup plus petites. En fait.
Par contre, la spray, elle passe sous le mur.
Ouais, alors, juste parce que si jamais je me fais tirer dessus par un géographe, c'est pas l'âge près, c'est l'un des bouts de flotte qui se plonge dans l'âge près. C'est un canot annexe, hein, mais ça n'a aucune assez, voilà. Alors oui, donc tu disais quoi? Oui, c'est l'âge près, c'était quoi ta question, en fait, du coup?
Ce point, enfin, c'est pas un point d'eau, donc. Ce cours d'eau qui passe là, il doit bien passer sous le mur.
Ah oui, bah il passe... Alors en fait, c'est pas qu'il passe sous le mur, c'est que le mur s'arrête pour laisser entrer l'eau, il reprend le côté, quoi. Ou alors, il y a parfois... Enfin, selon l'embouchement où t'es, peut-être qu'il l'a recouvert avec un mur aussi, mais oui, bon. Peut-être qu'il y a un pont de Mirador qui passe, ouais. Bah en fait, tu le vois sur la carte de 1080, que ça passe par ici. Enfin, je l'entoure sur la carte, hein, donc désolé pour les gens qui écoutent, hein, quand je dirais par ici, ça va vachement vous parler. Donc voilà, t'as deux points par lesquels la rivière sort de rentre et sort du quartier.
Ça, si on peut trouver un véhicule marin, ça pourrait.
C'est ce que j'allais dire, c'est navigable ce cours d'eau.
Oh oui, tout est navigable à Berlin. De toute façon, à la base, Berlin c'est un marécage asséché, hein, donc il y a beaucoup d'eau et toutes les rivières que vous pouvez croiser, enfin pas les lacs évidemment, mais tout ce qui est rivière ou fleuve, enfin le fleuve c'est l'Aspre, toutes les rivières qui viennent se jeter dans l'Aspre sont navigables. L'Aspre est très très large, mais là, pour avoir fait du vélo à côté de ce passage-là en l'occurrence, on y passe une péniche, hein, facilement. Pas deux, mais on y passe une péniche.
Et il y a régulièrement des péniches qui passent dessus.
Le quartier, dans le quartier de Tempelhof, il faudrait vérifier, regarder un peu ce qui circule, mais dans l'absolu, oui, il y a des choses qui passent. Quoi. C'est la coupe à pas arrêter le trafic fluvial dans le quartier. Par contre, elle doit le contrôler d'une manière ou d'une autre. La police, c'est un peu, quoi.
Oui, ça va se faire repérer, quoi.
Je pense qu'à cause de cette enclave, à cause de ce mur, de toute façon, la route, c'est compliqué et l'air, c'est foutu. Parce que c'est forcément très bien gardé. Moi, je vois deux points d'accès. C'est l'âge près, si c'est faisable et qu'on a le véhicule qui va bien. Ou repasser par les tunnels, mais il va nous falloir une belle carte des tunnels et explorer, ouais, parce que ça va être compliqué, quoi.
Et au passage, hein, je vais mettre sur la carte, hein, mais les tunnels que vous avez explorés sur Tempelhof, ils étaient genre là-haut, quoi. Ils étaient vraiment au nord.
Hein. Je suis d'accord, c'était pas du tout le bon côté de l'enclave, mais on sait qu'il y a ce genre de tunnels. Ils doivent courir sous tout Berlin, donc ça doit exister, mais faut trouver la carte, quoi.
Faudrait trouver, est-ce qu'il y a des tunnels qui mènent dans ce coin-là depuis Gruppenstadt? Alors pour le coup, la bonne nouvelle, c'est que, bonne nouvelle entre guillemets, au sud de Tempelhof, vous avez donc Gruppenstadt, et Gruppenstadt, c'est un quartier ultra néo-anarchiste, hein. C'est ni plus ni moins qu'une terre de gangers, hein. La ville et le quartier est tenu par la Horde, qui est un gros gang d'orchestrol. Et pour le coup, là, il n'y a pas de porte de Tempelhof vers Gruppenstadt, et c'est vraiment un mur de protection, quoi. Donc, bon, éventuellement, s'il y avait un tunnel du côté Gruppenstadt, vous pourriez au moins y rentrer facilement, quoi.
Et tu nous as dit qu'on a vu quand même quelques fois la fille de Dani. C'est à quelle occasion? C'était avant qu'elle aille là-bas, ou elle a quand même l'occasion de sortir de temps en temps?
Alors, en fait, c'était un peu l'histoire que vous raconte Annie. Je vais faire un peu en replay. Elle dit, il y a quelques mois, d'ailleurs, avant que vous arriviez, j'ai reçu sur mon Falscom une invitation. Enfin, j'ai été sélectionné pour famille en difficulté, bénéficiant d'aide corporatiste. Et en fait, j'ai eu une place pour mettre Sia dans ce foyer pour enfants. Mais c'était, on m'a vendu ça comme étant une Kita, quoi. Enfin, donc la Kita, ça s'appelle le Kindergarten. Donc, moi, c'était genre une bénédiction. Je pouvais enfin la quelqu'un qui s'occupait pendant la journée. Je pouvais travailler tranquillement. C'était super. C'était pas à côté de chez moi. Hein. Pour atteindre ce point-là, il faut qu'elle prenne 3 métros. Enfin, en gros, elle devait descendre au métro. Ah, ça doit être déjà Meringham, effectivement. Mais bon, de toute façon. Enfin, en gros, elle dit, ouais, je prends le métro et après, je devais rentrer dans la zone avec mon petit ticket puis emmener ma fille au foyer. Mais bon, ça me prenait une heure aller-retour et c'était quand même super. Et en fait, très peu de temps après, les premières semaines sont bien déroulées. Je crois que ça va être courant janvier. J'ai été contacté par quelqu'un de Sider Group qui m'a expliqué gentiment que, d'aujourd'hui, si j'allais essayer de récupérer ma fille, on ne me la rendrait pas. Et qu'à partir de maintenant, si je voulais avoir accès à ma fille et qu'elle ne disparaisse pas dans le système, il fallait que je m'appelle en nicher en expliquant que j'avais fait que je mette des renseignements sur le quartier. Alors, évidemment, je ne voulais pas au début. Et puis je me suis dit que je ne pouvais pas vraiment donner d'informations qui seraient dangereuses pour quelqu'un, quoi. Donc, j'ai accepté, puis j'ai continué à pouvoir avoir accès à ma fille. Puis bon, je pensais pas que ça intéressait de savoir qu'il y avait un gnome qui prenait un café dans le restaurant, de savoir que Blitz allait au bar d'à côté, là, au bar japonais d'à côté, mais visiblement, ça les a intéressés, quoi.
Ok, mais donc, nous, quand on avait vu Sia, c'était avant qu'elle se fasse embaucher, en fait.
Oui, du coup, ouais, non, mais du coup, je dis de la... Enfin, en fait, c'était avant que ça s'embauchait, c'est-à-dire que vous l'avez vu à l'époque où elle pouvait encore rentrer à la maison.
Ok, et elle fait des activités des fois avec cette crèche ou ce truc? Parce que peut-être que le meilleur endroit, c'est pas forcément à crèche, mais quelques endroits où ça peut être plus accessible.
Alors, il y a beaucoup d'activités à la crèche. Ils ont une petite cour à tailleur, une cour de récréation avec plein de jeux. Ils ont dans les étages différentes attractions pour enfants. Je vous laisserai imaginer ce qu'ils peuvent avoir. Alors, elle vaut quand même pas du rêve. Elle dit, ouais, la crèche, elle est quand même, c'est mieux qu'une crèche du quartier alternatif. Hein. Mais la peinture est vieillotte. Il n'y a pas de prof, il n'y a rien. Enfin, c'est Fenia, le petit dragon qui fait tout. Alors l'avantage c'est que bon, c'est un dragon en air, hein, donc elle peut gérer plein d'enfants en parallèle. Et puis elle est jamais fatiguée, elle a jamais envie de dormir. Mais c'est quand même pas non plus le grand rêve. Donc tous les jeux sont un peu vieillots. Hein, mais voilà. Mais en fait, il ne quitte jamais la crèche. Et en fait, comme il n'y a pas de staff pour s'occuper d'enfants, il n'y a pas de staff pour organiser des sorties, quoi. Le staff physique est là pour en gros faire tourner la maison. Et dans les moments où Fenia peut pas gérer les enfants en AR, il y a quelqu'un du staff qui vient physiquement, je vais dire coller une baffe aux enfants, non, mais voilà, s'il y a un enfant qui est tombé par terre, qu'il faut lui faire réparer un bobo, ou alors s'il y a deux enfants qui se bagarrent, ou un enfant qui obéit pas à Fenia, c'est là qu'un humain apparaît assez rapidement. Quoi.
Et elle dort aussi à la crèche et tout, parce que du coup elle y passe la nuit aussi, si je comprends bien.
Bah du coup en fait c'était un foyer, c'est là où je me suis fait avoir, c'est que je pensais que c'était une crèche mais c'était un foyer pour enfants, donc en fait en gros c'est un foyer pour enfants orphelins pour faire simple. Donc ils dorment sur place, etc. Ils ont des repas à la cantine au sous-sol et puis ils ont leur chambre à l'étage. Les chambres sont pas pareil, faut pas vraiment rêver, mais ils ont une petite chambre à eux. Et voilà, donc en fait ils ne quittent pas la crèche. Enfin ils ne quittent pas, c'est pas une crèche, c'est un foyer, ils ne quittent pas le foyer.
Les chambres sont individuelles ?
Non, Sia, c'est plutôt des mini-dortoirs, Sia partage ça. Alors, elle vous avait fait un petit plan en trois dimensions. Je vous donne pas de plan, c'est pas très intéressant pour le jeu, mais en fait, vous avez un plan du bâtiment tiré de la matrice, hein, parce qu'en gros, c'est pas secret. Hein. Vous avez pas, évidemment, les codes d'exit, enfin, où est-ce qu'il y a des clés Maglock et des caméras, mais vous avez le layout général en regardant des vidéos bêtement informatives. Et donc, elle vous montre que Sia est au deuxième étage et qu'elle a une chambre où elle partage chambre avec c'est 6 lits, enfin c'est 2 fois 3 lits en bunker. Comment on appelle en bunker, comment ça s'appelle? Mon dieu, j'ai tout oublié aujourd'hui. Merci. Mais y'a pas un autre mot pour ça?
En français, non. Bunk bed, c'est le mot anglais. Je pense que c'est de là que te vient le bunker.
C'est ça que vient le bunker, bunk bed, effectivement. Donc c'est de l'anglais que je pensais. Donc c'est pas un mot français. Donc voilà, lits pas posés. Donc il y a 3 à gauche, 3 à droite. Et alors après, Annie est pas très sûre s'il y a vraiment. Genre 5 enfants avec elle, ou s'il y a que 2 enfants avec elle parce qu'elle a 3 lits vides. Ça, elle peut pas vraiment l'affirmer, quoi. Elle dit, ouais, quand je suis allé dans sa chambre, il y avait généralement des enfants. Et des lits qui avaient l'air d'avoir été occupés.
Bon, effectivement, je pense qu'avant de planifier comment on prend la gamine, il faut peut-être essayer de trouver comment sortir Temple of avec elle. Que ce sera pas quand on sera avec une gamine qu'il faudra s'en préoccuper.
Est-ce qu'il y a une dernière option qu'on n'a pas mis sur la table, c'est d'y aller au bluff avec des faux signes qui vont bien et de cacher la fille.
Si on est capable d'avoir des faux signes assez vrais, moi j'imaginais presque s'il fallait peut-être se faire passer pour Annie ou l'accompagner en étant invisible, des choses comme ça. Ça doit pouvoir se faire.
Ouais, on peut aussi imaginer la sortir de nuit, de manière à ce que le temps qu'ils se rendent compte qu'elle est plus là, on est quitté Temple of.
Ouais, après le problème c'est que la sortir de nuit, moi je veux bien, mais ça me paraît sorti. Ça va être beaucoup plus dur de rentrer, quoi. Parce que si on entre, on risque de déclencher toutes les alarmes. Alors que moi, ce que j'imaginais, après c'était une idée, hein, c'était de profiter d'une des visites d'Annie pour rentrer, quoi. Quitte effectivement à la rendre invisible ou une connerie comme ça et la faire disparaître comme ça. Mais
juste pour récapiter, du coup pour vous aider, pour l'instant vous avez envisagé l'opération bluff à l'aide de faucine, avec la limite que si vous êtes au milieu de Temple of et que le faucine lâche, c'est problématique. Seconde opération que vous n'avez pas vraiment développé au maximum, c'est l'option de passer par le fleuve par un moyen ou par une autre. L'avantage du fleuve, c'est que vous êtes à 100 mètres de la maison, donc si vous arrivez à l'emmener au fleuve et du fleuve vous avez quitté le quartier, c'est quand même un raccourci par rapport à circuler dans les rues. Première option que vous n'avez pas non plus creusée, c'est réfléchir à ce qu'il n'y aurait pas des accès souterrains, est-ce qu'on ne pourrait pas, par le groupe Ustat ou ailleurs, trouver des bunkers qui nous amèneraient plus près de votre cible. La petite limite de ce truc là, c'est que dans la même de mémoire, j'essaie de me rappeler la carte de Berlin-Est, parce que les tunnels sont quand même massivement sous le mur de Berlin-Est à la base, ils ont été creusés historiquement pour ça. Je suis pas sûr qu'on ait des milliards dans le coin. Mais il y a quand même un très gros réseau souterrain à Berlin, donc enfin, voilà, il faudrait que vous ayez des contacts, quoi. Voilà, donc c'est un peu les trois idées que vous avez pour l'instant.
Alors, pour la partie fluviale, je me renseigne ou je vais voir à quoi ressemble le passage du fleuve à travers le mur.
Alors, tu te renseignes, tu t'appelles des contacts, quoi. Tu vois un peu, tu dis un peu, ouais, est-ce qu'il y a des mecs qui passent par là ?
Soit ça, soit au pire, je prends la voiture et puis j'y vais par l'extérieur, hein, s'il n'y a pas d'autre solution.
Alors, grosso modo, les passages ne sont, sont pas des barricades monstrueuses. En fait, le mur s'arrête. Le mur d'enclave s'arrête à la rivière, en fait, de manière à s'assurer que ça passe pas par là. Il n'y a pas de filet qui bloque ou de truc qui bloque. Il y a une porte qui peut se fermer. Enfin, ils ont un moyen de fermer s'ils veulent empêcher un bateau d'arriver. Ils peuvent fermer des portes rapidement qui bloquent l'accès. Typiquement, l'objectif, c'est d'empêcher, par exemple, un bateau terroriste de néo-anarchistes qui arrive en trombe en direction du quartier, bourré d'explosifs, quoi. Donc ça, ils ont des grosses portes blindées qui peuvent se rabattre à une vitesse assez ahurissante. Et tu vois que quand tu passes devant en voiture, tu vois que la mécanique est construite pour vraiment déployer vite ces trucs-là. Par contre, en temps normal, c'est ouvert. À gauche ou à droite, il y a un petit mirador sur le mur qui permet à des gardes de surveiller un peu ce qui se passe. Et en réalité augmentée, tu vas observer, quand t'arrives, t'as une péniche marchande qui passe à travers le quartier. T'as eu un peu de chance que c'est pas la péniche qui vient livrer à Temple of, c'est une péniche qui apparemment, vu ce que tu vas réussir à lire en réalité augmentée, a une sorte de passe pour traverser en fait. Donc la péniche, elle est là pour dire je rentre, je traverse tout Temple of et je vais de l'autre côté de Berlin en fait. Et donc effectivement par AR en réalité augmentée, il y a une validation du signe du capitaine du bateau. Enfin pas c'est une péniche automatisée, hein, donc il n'y a pas de capitaine de bateau. Mais donc en gros les informations d'identification de la péniche sont validées par l'outillage matriciel du truc et la péniche rentre et traverse tranquillement, enfin traverse tout doucement et rentre à l'intérieur du truc. Et du coup t'es passé par la porte est, on va dire, tu fais le tour du quartier par le sud autant que possible en prenant des axes qui sont pas réservés qu'aux corporations et tu reviens par l'autre angle et tu vois grosso modo la même chose. La seule petite différence, c'est que t'as l'impression que la sécurité est un peu moins élevée à l'ouest qu'à l'est, parce que, sauf erreur de ma part, à l'ouest, tu débarques dans un quartier corporatiste qui est celui de Zehlendorf. Ouais. En l'occurrence, Zehlendorf, dans mes souvenirs, c'est un quartier notamment où Evo est très important. Donc ouais, l'embouchure ouest est beaucoup moins protégée que l'embouchure est, parce que l'embouchure est, effectivement, elle est collée à Kreuzhahn, qui est donc, pour le coup, un quartier néo-anarch. Voilà.
Oui, puis l'embouchure ouest a l'avantage d'être beaucoup plus proche.
Elle était quand même beaucoup plus proche, ouais. Par contre, il faut arriver à monter à bord depuis un autre quartier corporatiste, alors qui est moins enclavé et sécurisé que celui de Temple of, mais c'est quand même un quartier corporatiste. Hein, donc vous êtes plus proche de Manhattan dans Shadowrun que des Redmond de Seattle. Hein. En fait, Zehlendorf, je pense que c'est Bellevue, bon parallèle.
Ok. Et donc il faut arriver jusque-là sans qu'ils sachent qu'on a enlevé une gamine dans le bateau.
Ouais, en gros, tu imagines se payer une place dans un bateau, d'une manière ou d'une autre. Alors, quand je dis se payer, hein, c'est au sens large, on voit comment on fait. Et pendant que le bateau se tape la traversée de Temple of, on essaye de récupérer la gamine, de le remettre dedans, et quand il ressort, on est tous dedans, gamine compris.
Ouais, c'est un peu ça l'idée.
Ça me paraît pas dégueulasse comme plan, comme début de plan en tout cas. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est comment la sortir du foyer.
Avant du comment, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la fenêtre de temps qu'on a. Parce que si la péniche continue à avancer, ça n'arrête pas, puisqu'elle est là que pour traverser. Pour bien construire le plan au niveau du kindergarten, ce serait quand même intéressant de connaître notre timing.
Ouais, j'imagine que ça met du temps. En gros, la péniche, pour faire la traversée de Temple of, elle a mis combien de temps ?
J'ai pas mesuré, frère. J'avoue, j'avais pas réfléchi à ça.
En gros, hein, ça se compte en heures, en minutes, en secondes.
Non, on va dire, à mon avis, ça doit être, de manière réaliste, ça doit être de un quart d'heure à une demi-heure de bout à bout. Hein. Enfin, ça en vélo, ça se fait une demi-heure. Hein. Donc la péniche va pas beaucoup moins vite qu'un vélo, quoi.
Ouais, mais quand même moins vite qu'un vélo.
Alors après, si vous faites ça en hors-board, c'est une affaire de minutes. Hein. Bon, après, est-ce qu'un hors-board a sa place dans ce brado, c'est une autre discussion, quoi.
Non, mais bon, du coup, ça nous laisse ce quart d'heure pour sortir de la péniche, aller chercher la fille, la récupérer, la remettre dans la péniche et sortir avant qu'elle sorte de l'enclave, quoi. Ça vous paraît jouable ou pas ?
C'est chaud, parce qu'on n'aura pas de moyen de locomotion.
Après, je me dis qu'une péniche, c'est gros. On pourrait embarquer ce qu'on veut dedans si on arrive à se payer une bonne place.
Juste une remarque, pas que vous vous bloquez sur la péniche. Il peut y avoir une péniche, il peut y avoir des bateaux fluviaux beaucoup plus petits qui passent. Il peut y avoir des bateaux de... J'ai encore le mot anglais qui sort, des bateaux de lésure. Enfin, vous avez des gens qui ont des bateaux à Berlin, même aujourd'hui. Hein. pour se balader dans la ville. Hein. Donc, si vous avez un signe de honnête citoyen qui s'est acheté un bateau et qui circule sur la ville, vous pouvez avoir un bateau beaucoup plus petit. Vous pouvez avoir aussi des houseboats. Hein. Alors, c'est assez rare que les houseboats bougent, mais il y en a beaucoup encore à Berlin. Donc, des maisons bateaux. Donc voilà, enfin, genre, c'est pas qu'une péniche. Hein. Ensuite, c'est évident que traverse l'enclave de A à B, elle n'est pas supposée s'arrêter. Par contre, si le bateau doit rentrer au port de Tempelhof, par exemple, vous avez acheté un bateau de plaisance, vous pouvez très mal ramener ou vous garer au port de Tempelhof pour aller au restaurant, par exemple. Donc ça dépend un peu du contexte du bateau que vous allez prendre. Voilà.
Ouais, à ce moment-là, il faut un signe. Par contre, on peut être passager sur un bateau qui mettra beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il tombe en panne. C'est ballot, mais ça peut arriver. Surtout si on l'aide.
Il y a quelques croisières hein, sur l'HP Compagnie qui passent par là hein, pour les touristes. Et vous pouvez très bien imaginer prendre un de ces bateaux et vous arranger pour qu'il y ait un accident qui fasse que le bateau reste en rade pendant 10 minutes devant le truc. Après, le défaut de ce truc-là, c'est que le bateau va rester en rade, pas forcément à ponter, hein, et va aussi risquer d'attirer un peu attention. Il se peut qu'il y ait quand même quelques gardes qui viennent voir ce qui se passe pendant que les mecs réparent. Quoi. Mais oui, c'est une option en tout cas. Ouais.
Il y a des genres de bateaux mouches qui passent là, et donc on achète un ticket avec un signe tranquille, et on peut donc quand même traverser Tempelhof.
Ouais, alors vous faites l'effort d'aller regarder un peu dans la matrice, et vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des croisières pour touristes, hein, des bateaux mouches, comme tu dis, qui passent par là, et alors évidemment, eux, ils n'ont pas besoin de valider le signe d'où les passagers, parce qu'ils ne s'arrêtent pas, en fait. Donc, ils valident juste leur bateau, et le bateau traverse le truc. Par contre, effectivement, tu te doutes bien que si jamais le bateau s'arrête, ça va forcément éveiller un peu des suspicions.
Il n'y a pas des croisières qui prévoient une pause pour manger au restaurant de Tempelhof.
En moyennant un peu plus de recherche patricielle, tu vas trouver effectivement qu'il y a quelques croisières qui incluent le fait de s'arrêter. Alors c'est pas des croisières qui, ouais, enfin c'est plus des croisières justement que des bateaux mouches. C'est des trucs où tu pars de Hambourg, tu descends toute la Havel avec plusieurs arrêts, et à chaque fois que tu t'arrêtes dans un café, dans un restaurant hyper bon. Mais voilà, et donc tu peux t'arrêter un peu partout. Et oui, il y en a des croisières qui s'arrêtent. Par contre, là, tu te rends compte assez vite que le signe, il est fourni par la compagnie hein, auprès de Tempelhof, enfin auprès des autorités de Saider Group. Et qu'en gros, quand le bateau s'apponte, Saider Group sait très bien quelles personnes sont supposées être à bord et s'arrêter. Quoi.
Donc, faudrait rester sur le bateau qui traverse et lui faire avoir une avarie. Mais ça peut être une idée. Vu qu'a priori, on a été faire le tour à proxy. Enfin, en tout cas, Gentle a fait le tour en voiture. On va supposer que j'y étais avec lui. Astralement, il y a des barrières pour pas rentrer dans Tempelhof ou qu'est-ce qu'il y a magiquement?
Alors, tu t'es projeté astralement à ce moment-là. Alors, on n'a pas de mur d'enceinte astrale, nous n'en sommes pas encore arrivés là. Ce qui est sûr, c'est que la zone astrale est patrouillée, c'est-à-dire que tu vois des esprits qui patrouillent. Généralement, dans les endroits, par exemple, les points d'accès, les endroits où il peut y avoir un peu de problèmes, il y a même des esprits fixes qui sont là. Admettons que tu observes beaucoup le mur, tu pourrais même voir que parfois il y a des mages en projection astrale qui font le tour aussi. Et tu vas quand même pouvoir te lancer un peu à explorer au moins, on va dire, les cieux de Tempelhof astralement. Et en fait, effectivement, il y a plein d'endroits où tu as des barrières astrales. Enfin, rôle, quand tu survoles le quartier, tu as plein d'endroits où tu as des bulles astrales partout qui sont posées un peu comme des dômes, parce qu'il y a plein d'endroits où il y a des barrières astrales qui ont été établies. Hein. On sent que c'est quand même bien balisé.
Et est-ce qu'il y en a une autour du foyer?
Alors voilà, donc en suivant le fleuve tranquillement pour pas te taper une barrière astrale, pour le coup c'est dégagé pour atteindre le foyer. Non, le foyer n'a pas de barrière astrale, enfin, tu rentres dedans, d'ailleurs en fait tu rentres dedans, tu peux facilement circuler à l'intérieur, voir les enfants, et même tu pourras aller voir qu'il y a Sia qui dort, on va dire que tu fais ça de nuit, et donc tu vas dans la chambre de Sia et puis tu reconnais à son aura qu'elle est là en train de dormir.
D'accord, oui justement je comptais le faire, donc autant en parler tout de suite. Ok, donc je peux accéder à elle.
Et tu peux donc compter le nombre de personnes qui est dans sa chambre.
Tu peux manifester physiquement et constater qu'il y a effectivement trois filles avec elle.
Bah, rien qu'avec les auras. À moins qu'elles se soient des robots, elles sont censées être vivantes.
À stage, ça doit se voir.
Tu peux les compter avec les auras, voir qu'il y a trois auras en plus, et après tu peux te manifester physiquement si tu veux pas lire leurs auras. Parce qu'il fait nuit quand tu vas, donc tu verras rien. Mais oui, bon, voilà. Enfin, il y a trois petites filles avec elle. Quoi.
Et il n'y a pas spécialement de mages en patrouille ou d'esprits dans les alentours. Quoi. Et sur le fleuve, notamment autour du port, pareil, pas spécialement surveillé magiquement?
Non, non, non. Hey, c'est un foyer pour enfants. Enfin, Alors, tu vas surveiller le port de plaisance de Temple of assez rapidement. Il y a quand même un peu de sécurité. Alors, sûr que tu vas voir, genre, il y a un esprit en patrouille qui est un peu qui fait le périmètre du port. Mais ça va pas au-delà, quoi. Ça, c'est pas aussi extrême que sur les bords de l'enclave.
Ok. Parce que l'idée que je me disais, c'est si on veut faire avoir une avarie au bateau, peut-être qu'un esprit de l'eau pourrait aider. Maintenant, je sais pas trop comment en pratique, mais ça peut être une idée, quoi. Et nous laisser le temps d'aller chercher la petite. Du coup, l'autre bonne nouvelle, c'est que je peux la contacter si jamais je veux, par le biais de l'astral, en manifestant. Par contre, je peux pas la réveiller.
Bah, tu peux te manifester. Alors, je crois que quand tu te manifestes, tu peux parler normalement, donc tu peux te manifester et parler et espérer que ça la réveille, mais.
Je peux pas la secouer, elle, personnellement, quoi. Du coup, ça va réveiller les trois autres.
Ouais, tu peux pas la secouer, et puis en plus, je suis pas convaincu que la communication d'une forme astrale soit vraiment une communication sonore, tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, t'apparais et tu parles avec la personne que tu peux voir. Par contre, est-ce que tu fais du bruit? Enfin, c'est un élément qui est pas vraiment éclairci, quoi.
Mais bon, par contre, en pleine journée, je peux m'arranger pour communiquer avec elle. Si Annie l'a prévenue, par exemple.
Avec toute la limite, enfin, avec tout le côté un peu mal placé de la chose, le mieux sera pour le moment que tu la suives pour te manifester quand elle est aux toilettes toute seule, quoi. De manière à ce que tu te vois.
Oui, mais en plus, Annie peut la prévenir. Annie peut quand même aller la voir.
Bah, Annie peut aller la voir. Le problème que vous avez avec Annie aujourd'hui, c'est que bon, elle est un peu, voilà, choquée par tout ce qui se passe, mais surtout, c'est pas une espionne, Annie, quoi. Donc, genre, vous lui avez fait parler en 2 minutes, et vous dites que si vous attendez trop longtemps pour vous occuper de libérer Sia, ce que vous craignez, c'est que si Annie y aille une ou deux fois, bah peut-être que l'agent de liaison va comprendre qu'il y a un truc qui va pas et va griller que voilà quoi. Mais potentiellement, Annie peut très bien aller voir demain Sia.
Ouais. Bon, ça reste un plan B, on va dire, mais ouais, il faut, on peut faire ce genre.
Vous avez écouté Jeux d'ombre. Un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.